Bonjour, chers citoyens de la République du Madawaska. Merci de m'accueillir, moi, un simple Rimouskois, dans ce lieu. Et merci pour les annonces. Et vraiment, n'oubliez pas de vous rappeler, dans le temps des fêtes, de la venue de Jésus. Amen. C'est littéralement l'événement le plus grand que l'humanité a connu, sa venue. Malheureusement, on ne la traite plus ainsi, mais nous, enfants de Dieu, n'oublions jamais cela. C'est la chose la plus importante qui soit arrivée. Plusieurs me demandent, ton épouse, es-tu venue? Je sais que vous aimez mieux la meilleure partie de notre couple, là, je comprends ça. Là. Mais moi, j'ai un chien. Il s'appelle Charlot. Il y a 2 ans, c'est un labrador noir, puis c'est une vraie perle. Puis vraiment, vous y devez beaucoup, parce que vraiment, c'est lui le matin qui me force à aller marcher. Il faut que je le marche tous les matins. Puis la Bible dit, rentre dans ta chambre. Mais moi, ma chambre, c'est le plein air. Fait que chaque matin, il vient me trouver. Je n'ai pas le choix, il faut que je le marcher. Et puis, dans ce temps-là, j'ai des bons temps avec le Seigneur, parce que moi, dans sa création, je trouve que c'est le meilleur endroit. Dans ma chambre, je m'endors. Au plein air, ben, même s'il fait fret, ça me réveille, ça me tient réveillé. Puis j'ai des bons temps dans le Seigneur, dans le plein air. Puis mon chien, ben, il est facile à plaire. Là. J'ai juste besoin de l'emmener marcher, le faire sentir un petit peu, le nourrir, donner de l'eau, il est content. Ah, je ne peux pas en dire autant de la deuxième partie de notre couple. Un petit peu plus compliqué à satisfaire. Puis elle serait ici où je le dirais pareil, puis elle trouverait ça drôle. Amen. Donc, c'est ça. Donc, elle garde le chien, c'est ce qu'elle fait. Mais une prochaine fois, elle me dit qu'elle viendrait, puis on fera garder le chien, puis etc. Fait que vous pourrez la voir, etc. Donc, elle vous envoie ses salutations. Et ce matin, vraiment, on va regarder un message de Éphésiens, Éphésiens 2. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, j'aurais pris un verre d'eau peut-être, parce que je vais peut-être en avoir besoin, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas les promesses qui sont réservées à ceux qui servent un simple verre d'eau. Hein? N'oubliez pas ça. Donc, si vous voulez tourner dans Éphésiens 2, on va lire le verset 1 à 7. Et merci encore pour votre accueil, votre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous. Éphésiens 2, verset 1 nous dit... Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et même, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, ça veut dire qu'il ne nous donne pas des punitions qu'on mérite, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Seigneur, on te remercie pour cette parole que tu nous as donnée, écrite de la main de Paul, inspirée par le Saint-Esprit, et merci que cette parole s'est rendue jusqu'à nous en 2023 et qu'elle est encore efficace pour toucher des vies, pour transformer des vies, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous aider à garder nos yeux vers le ciel, vers ta venue, que tu puisses bénir ton peuple ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ont dit
Amen.
Donc, moi, c'est en 1987, à l'âge de 25 ans, où pour la première fois, après une quête spirituelle qui durait depuis mon enfance, à la recherche d'une vérité immuable, à la recherche de l'origine de toute chose, à la recherche d'un sens à cette vie qui, selon moi, fait aucun sens, à une réponse à la question « si je meurs, où c'est que je m'en vais ?» que finalement, j'ai rencontré Jésus-Christ, qui, lui, est vérité immuable, qui, lui, est à l'origine de toute chose, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. C'est lui qui donne un sens à ma vie ici, maintenant. Et il répond de façon on ne peut plus claire à la question de notre destinée éternelle lorsqu'il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Que par moi. Jésus-Christ est inclusif, tout le monde est bienvenu, mais il est également exclusif, car il n'y a que lui. Et il répond de façon on ne peut plus claire à la question de notre destinée éternelle. Celui qui a le Christ a la vie. Et pour ceux qui ont répondu négativement à cette invitation qui s'adresse à chacun de nous qui dit « Toi, suis-moi, pas Joe, pas Paul, toi, suis-moi », ceux qui répondent négativement à cette invitation, il leur dira « Loin de moi, je ne t'ai point connu, je respecte ton choix. » Et celui qui répondra favorablement à son invitation entendra les plus belles paroles audibles, ayant caresser le tympan d'une oreille glorifiée qui dira « Entre dans ma présence, bon et fidèle serviteur. » Une fois cette décision prise, le voyage du pèlerin sur cette terre que l'on nomme la vie chrétienne, qui se pratique depuis plus de 2000 ans, débute. Cependant, on ne comprend pas toujours bien le cul-de-sac, le dead-end, comme on dit au Nouveau-Brunswick, dans lequel l'homme se retrouve avant d'emprunter le chemin de la vérité qui mène à la vie éternelle, ni les embûches, ni les obstacles à laquelle on doit faire face une fois qu'on est sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Conséquemment, on ne comprend pas toujours la pleine mesure, la grandeur du salut en Jésus-Christ. Premièrement, dans le texte qu'on a lu, Paul débute son message en disant « Vous étiez morts. » Aïe, aïe. Paul nous dit de façon claire qu'avant d'être régénérés, nous étions morts. Mort spirituellement. Combien dans cette salle comprennent cette phrase « Il est mort ». Pas dur à comprendre. Il est mort. Et supposons qu'il y a deux morts dans cette salle. Mort A et puis mort B. Pourrait-on dire que mort A est plus mort que mort B? Pourtant, on fait ça souvent. Quand on compare le témoignage de deux individus qui viennent au Seigneur avec un air plein différent, on va dire du criminel, du drogué, du violent, de la prostituée qui vient au Seigneur, « Hey, lui, elle,
Tu as tout qu'un témoignage. La personne qui grandit dans l'Église, qui fréquente l'Église toute sa vie, puis qu'à 16 ou 17 ans, ou peu importe, vient et réalise sa condition de pécheur, puis qui donne sa vie au Seigneur, bof. Pourtant, Paul dit aux Éphésiens et nous dit encore aujourd'hui qu'avant qu'une personne accepte le Seigneur, vous étiez mort. Donc, mort A n'est pas plus mort que mort B. On est en train de dire à B, toi, vraiment, tu n'as pas vraiment un gros témoignage. On est quasiment en train de dire des jeunes dans l'Église, tu n'es pas assez mort. Tu devrais aller mourir un peu plus. On lui donne quasiment le goût d'aller se bâtir un témoignage, d'aller mourir plus, puis de revenir à Christ, puis là, hey, là, il est tout un témoignage. Il revient à la vie pour avoir un témoignage qui a de l'allure. Mais il n'y a rien de plus faux. Toute personne qui n'a pas reçu le Christ n'est pas en train de se bâtir un témoignage. Mais elle est morte spirituellement. Tous ceux qui n'ont pas le Christ sont morts égales. Et celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Et toute personne qui vient à Christ expérimente le plus grand miracle disponible à un homme ou à une femme sur la face de la terre, c'est qu'il naît de nouveau. Et je me rappelle d'avoir demandé à un prédicateur qui avait été à un moment donné partout sur la planète Terre. J'étais jeune chrétien à l'époque. J'ai dit, c'est quoi le plus grand miracle que tu as vu? Je pensais qu'il me dirait, j'ai ressuscité des morts, j'ai guéri des lépreux, je leur ai donné la vue. Il m'a dit, une âme qui vient au Seigneur. Et à cette époque, j'étais déçu. Je m'attendais un plus gros miracle que ça, vraiment. Mais avec les années, je comprends, oh, combien le miracle de la nouvelle naissance est le plus grand des miracles. Pourquoi? Parce qu'on pense de la mort à la vie éternelle. Hey! C'est tout qu'un miracle. Aux jeunes qui grandissent dans l'Église, il n'est pas nécessaire que tu ailles te mettre dans le trouble pour avoir un témoignage. Parce que passer de la mort à la vie, ça, c'est un témoignage. Puis en plus, si tu ne te mets pas dans le trouble, tu n'auras pas besoin de subir les conséquences qui viennent avec le trouble, si tu t'étais mis dans le trouble. Ah oui, Dieu pardonne les voleurs. La police, non. Ils vont t'envoyer en prison, pareil. Je disais souvent à mes enfants, obéissance égale récompense. Désobéissance égale conséquence. Oui, Dieu pardonne les voleurs, mais pas la police. Ce dont tout homme, toute femme a besoin, c'est de reconnaître sa condition de mort, de se repentir de ses péchés, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur pour passer de la mort à la vie. Passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Ultimement, on a tous le même témoignage. Sans la vie de Christ en nous, on est toutes morts égales. Et avec Christ en nous, nous sommes ressuscités pour la vie éternelle. Le verset 4 de notre texte déclare « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Et lorsqu'on vient à Christ, on peut dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » On peut dire en lui « Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous sommes héritiers du Père, co-héritiers avec le Fils. » En lui, nous avons cru et nous avons été scellés par le Saint-Esprit qui a été promis. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qu'il a renversé le mur de séparation entre nous et lui. Il est venu annoncer la paix à nous qui étions loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Dans un même esprit, réalisez-vous ce matin que 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, vous avez accès au Créateur de l'univers. Ainsi donc, nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, n'est-ce pas Saint Roger? Saint Robert? Sainte Rachel? Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, notre fondation. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint, le lieu d'habitation du Seigneur Jésus-Christ. C'est vous et moi. En lui, nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia! Pour le larron sur la croix à côté de Jésus, ce fut rapide. De mort spirituellement, il est revenu à la vie pour chaque minute et il est redevenu vivant en Jésus-Christ pour l'éternité. De vivant son corps, dans son corps, il est mort, mettant fin à son pèlerinage sur cette terre, mais il n'en est pas ainsi pour nous. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a accepté le Seigneur, puis le pèlerinage sur cette terre se poursuit. Et ce que je constate, c'est bien que lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Contrairement au larron qui a été crucifié à côté de Jésus, à moins que je meure comme là, je ne vais pas entendre les paroles ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Mais plutôt, ce que nous dit Matthieu 24, 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Persévérer, ça veut dire faire preuve de constance, de ténacité, d'acharnement. Ça veut dire continuer vers le but malgré les vents contraires. Ça veut dire lâche pas. Ça veut dire continue malgré l'opposition. Ça veut dire continue même que tu le files pas, parce que ce n'est point une question de feeling, comme le disait la chanson. Ce n'est point une question de feeling. Et pour bien saisir en quoi nous devons persévérer, on doit identifier ce qui s'oppose à nous sur ce parcours qu'on appelle la vie chrétienne. Il faut l'identifier, il faut connaître qu'est-ce qui s'oppose à nous. Et le texte qu'on a lu nous donne une piste pour mieux comprendre les forces présentes pour faire obstacle aux enfants de Dieu sur cette terre. Parce qu'il y a des forces présentes qui s'opposent aux enfants de Dieu sur cette terre. Éphésiens 2 nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon les convoitises de notre chair. Et dans ce texte, Paul déclare, vous étiez morts. Pourquoi? Parce que vous marchiez selon le train de ce monde, selon la puissance ou le prince de la puissance de l'air, le Yob. Vous connaissez le Yob? Pas lui qu'on joue au poule avec, là, le Yob. Le Yob. Et selon les convoitises de notre chair. Le train de ce monde, le monde dans les Écritures de Paul est utilisé de plusieurs façons. Il y a la scène où se passe notre vie, le monde. Nous vivons donc sur terre, dans le monde terrestre. On ne vit pas dans l'eau, dans le monde marin, mais on vit dans le monde. La scène du monde, on ne peut pas l'éviter. C'est là qu'on vit aujourd'hui. Il y a les acteurs sur la scène, c'est-à-dire l'ensemble des individus qui vivent dans ce monde, vous, moi, les personnes du monde, le monde ordinaire. C'est vous, c'est moi, c'est eux, c'est les habitants de la terre, le monde. Il y a le système selon lequel les acteurs jouent dans cette scène. Le système du monde, c'est la société, les gouvernements, les religions, le train de ce monde qui tente de prendre la place de Dieu. C'est ce qu'on appelle le train de ce monde, la pensée de ce monde. Le monde et la pensée du monde, c'est ce régime qui tend à nous rendre dépendants de ce système au lieu de nous rendre dépendants de Dieu. Le train de ce monde n'a pas d'intérêt pour mon âme, pour mon épanouissement, pour mon salut, pour la prière, pour la piété, pour mon éternité, il s'en fout. Pour le monde, se préparer à mourir, vous savez ce que ça veut dire? Pour le monde, se préparer à mourir, ça veut dire « oublie pas de faire ton testament ». Fais sûr que tu prépares tes arrangements funérailles. Veux-tu être enterré ou incinéré? Puis mon âme, elle, ma destinée éternelle, elle, rien. Rien, car le train de ce monde s'oppose à Dieu. Elle veut une société laïque. Veut que la spiritualité, ça reste à la maison. C'est chevaux. Tente-moi pas. Ne fait croire ou nous fait croire que de toute manière, tout le monde va à la même place. Et ce monde est sous l'influence du prince des ténèbres. Ce qui m'amène à notre deuxième ennemi, le Yob. Le diable, le texte que nous avons lu nous dit que dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Dans la Bible, cet ennemi a plusieurs noms. On l'appelle Satan parce que c'est l'accusateur, c'est l'adversaire, c'est lui qui nous accuse. Cette petite voix qui te condamne tout le temps, c'est lui. On l'appelle Lucifer parce qu'il se déguise en ange de lumière. Et son terrain de jeu préféré, c'est s'infiltrer dans l'Église de Dieu et y faire entrer le train de ce monde et les fausses doctrines. Le diable, c'est celui qui sépare, le diviseur. On l'appelle aussi le tentateur parce que c'est lui qui tente pour faire tomber l'homme ou la femme dans le péché. On l'appelle le démon, c'est un esprit malfaisant, un mauvais esprit. On l'appelle le malin, ça veut dire qu'il engendre le mal, il utilise la ruse. On le décrit comme un être sournois qui emploie des méthodes de lâche pour parvenir à ses fins. Le reconnaissez-vous? On l'appelle Belzébuth, on l'appelle la bête, on le compare au serpent, vous savez, celui qui sème le doute. Dieu a-t-il vraiment dit? Il se promène dans l'ombre, il murmure, il tremble. On l'appelle le lion parce qu'il s'attaque aux faibles. Et on l'appelle le dragon parce qu'il brûle et décime tout sur son passage. On vient dans ce monde, puis dès la garderie, en passant par l'élémentaire, le secondaire, l'université, le milieu de travail, tous nous enseignent ou tentent de nous enseigner que nous sommes que le résultat d'une évolution aléatoire sur des milliards d'années. Qu'il n'y a pas de vérité absolue. Que l'important, c'est d'avoir des bonnes valeurs, de s'enrichir, de réaliser son plein potentiel, d'écouter son cœur, de laisser libre cours à tous ses désirs et ses envies, il faut les satisfaire, qu'il n'y a pas de Dieu, que nous sommes Dieu. Et voilà ce que le monde nous enseigne. Pourquoi le monde s'oppose à Dieu? Parce que le diable, le prince des ténèbres, est celui qui règne sur cette terre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, on peut le lire dans Matthieu 4, 8, 9, chapitre 4, versets 8 et 9, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et vraiment, il ne pouvait pas offrir à Jésus ce qui ne lui appartenait pas. S'il lui a offert, c'est parce que ça lui appartient. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et c'est exactement ce qu'il veut de chacun de nous. « Si tu m'adores, je vais te donner toutes les choses que tu veux. » Heureusement pour nous, Jésus a dit non. Car Jésus savait qu'on n'adore pas moins que soi. On n'adore pas moins que soi. Et tout ce que vous adorez en dehors de Jésus-Christ, c'est moins que vous. Vous adorez quelque chose qui est moins que vous. C'est pour ça qu'on doit toujours adorer Christ, parce que lui, il est plus que nous. Et tout ce qui est à l'intérieur de l'univers est moins que nous, parce que nous, nous sommes à la droite du Père, assis avec Jésus-Christ. Et tout ce qui est dans cet univers, les astres, les ci, les ça, c'est moins que nous. Et nous sommes appelés à adorer plus que nous, Dieu le Père, Jésus-Christ en trois personnes. Cette offre nous est également faite à nous aujourd'hui. Et cette offre, elle est tentante, elle est alléchante, parce que ce que le monde a à offrir, ce que le diable a à offrir, ce qui donne de la puissance à ce que le train de ce monde et le diable nous offrent. Savez-vous qu'est-ce qui donne de la puissance à cette offre, c'est qu'il nous offre exactement ce que notre chair désire. Aïe, aïe. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Avant de venir à Christ, je vais parler pour moi, je ne sais pas pour vous autres, là. Je n'étais pas séparé de Dieu à cause de la façon dont j'ai été élevé ou pas élevé. Je n'étais pas séparé de Dieu à cause de l'éducation que j'ai reçue ou pas reçue. Je n'étais pas séparé de Dieu à cause des abus que j'ai pu subir ou des abus que j'ai pu causer aux autres. Je n'étais pas séparé de Dieu à cause des mauvais coups que j'ai pu faire. Non, j'étais séparé de Christ à cause de ma nature pécheresse, à cause de ma nature charnelle, héritée de Satan. Héritée d'Adam, excusez-moi. Oui, j'ai été influencé par le train de ce monde. Oui, j'ai été influencé par le prince des ténèbres. Mais j'étais également consentant à me laisser influencer à cause de ma nature pécheresse, qui a ce désir inné de satisfaire ma chair. La chair, chair, ça coûte cher. « C'est comme ça depuis l'entrée en scène du péché. Romains 5, 12 nous dit, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, dans la scène où nous vivons, le péché est rentré, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes. Moi inclus. J'aimerais m'exclure, là, mais moi inclus. Et c'est ça la difficulté de l'Évangile. Il faut reconnaître que je suis perdu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je sais que même si le monde puis le diable me laisse tranquille, ma chair, elle seule, fait guerre à mon esprit. Galates 5, 17 nous le dit. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. J'étais mort spirituellement, séparé de Dieu à cause de ma chair, de mon péché. Voyez, au commencement, Dieu a créé un monde parfait. Et il a vu que c'était bon. Il y avait une scène propre, avec des êtres créés qui étaient propres, dépendants de Dieu. Le serpent est venu, évidemment, il a tenté l'homme. L'acteur malicieux a fait son entrée sur scène et, usant de demi-vérité, semant le doute, les acteurs ont désobéi à Dieu. Et par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la scène a été contaminée. Et par le péché, la mort, de même la mort, a atteint tous les hommes. Les acteurs ont tous été contaminés. Et la scène est maintenant dirigée par le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous vivons dans une scène contaminée. Les joueurs sont contaminés. Et ils sont dirigés par le prince des ténèbres, le père du mensonge. L'homme, la femme, navigue dans ce bouillon, dans cette réalité malsaine, le monde et ses fausses promesses, le père du mensonge et ses mirages destructeurs, et cette chair qui fait le mal que je ne veux pas faire, puis qui a de la difficulté à faire le bien que j'aimerais faire. Puis l'homme, tôt ou tard, dans sa vie, il sent ce tiraillement. La Bible dit qu'on a la loi de Dieu écrite dans notre cœur, et cette loi de Dieu, cette pensée de l'éternité dans notre cœur ressent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre société, dans le monde, où c'est qu'on s'en va. Par quelle sorte de monde qu'on est dirigé ou contrôlé? On est dirigé par une gang de menteurs, disent-ils. As-tu vu comment ça va? Le monde n'a plus de morale, hey! Si ça continue de même, on va frapper un mur! Et effectivement, l'homme, vous et moi, laissé à lui-même, est destiné à l'autodestruction. Dani, t'es plate un matin, là. T'es pas mal décourageant, là. Oui, c'est vrai, je suis décourageant. Puis si je finirais comme ça, ça serait vraiment décourageant. Parce que c'est vrai qu'on a cette bataille, ce combat entre ce monde qui veut nous attirer, le prince des ténèbres et notre chair. Et souvent, dans l'histoire, qu'est-ce que les gens ont fait? On dit, c'est-tu le monde mon problème? D'accord. Je m'en vais m'encabaner dans un monastère en quelque part, loin du monde. Puis je vais vivre comme dans les années 1200, à cheval pour au poêle à bois. Puis je ne vais rien avoir à faire avec ce monde-là. Ça, c'est un extrême. Dieu ne nous appelle pas à ça. L'autre extrême, pour combattre la chair, c'est-tu ça que c'est? Je m'en vais dans un monastère, dans un couvent à quelque part, on va barrer toutes les portes, puis moi, je vais juste prier, puis en plus, je vais m'habiller pour qu'on me voie juste les mains par la face. il n'aura plus de chair. Loin du monde, loin de la chair. Puis même, dans l'histoire, quand on lit l'histoire de l'Église, c'est passionnant, c'est fascinant. On commence à voir la naissance du mouvement des monastères. C'est capotant, là. Il y a même un homme là, qui est resté comme 37 ans au bout d'une perche avec une plateforme dessus, puis il se faisait monter son eau et sa nourriture à tous les jours, puis il se flagellait, il mortifiait sa chair. Ce n'est pas la réponse de Dieu. Et l'Église, parfois, peut faire ça. C'est-tu la chair? On va mettre un paquet de lois. Goûte pas, regarde pas, fais pas ci, fais pas ça, regarde pas un film, débarrasse-toi de ta TV, fais pas... Des lois. Où les gens vont s'isoler et ils forment des communautés. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Oui, il y a le monde, il y a les yachts, puis il y a la chair. Mais Dieu. Dites-le avec moi. Mais Dieu. Mais Dieu a tellement aimé le monde. Qu'il a envoyé son Fils sur la scène. Le pur est venu sur une scène impure. Le propre est venu dans un monde sale. Le sans péché est venu dans un monde de pécheurs. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils faire son entrée dans ce monde, faire son entrée sur cette scène pour vaincre le monde. Jean 16, 33 nous dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Mais maintenant qu'il a vaincu le monde, il nous exhorte à ne pas se conformer au train de ce monde. Romains 12, 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. » Par le renouvellement de l'intelligence, pensez autrement. Pensez plus selon le train de ce monde, pensez selon le train de ce livre. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. On n'est pas appelé à s'isoler du monde. Nous sommes appelés à discerner la volonté de Dieu et à s'y conformer afin d'influencer ce monde. 1 Jean 2, 15 nous dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 2 Pierre 2,20 nous dit, en effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il ne faut pas que le monde entre dans l'Église pour y trouver le monde, mais il doit rentrer dans l'Église pour y trouver Jésus-Christ, qui transforme le monde, qui transforme les vies de l'intérieur vers l'extérieur, qui change nos vies pour détruire les œuvres du diable, parce que Jésus-Christ est venu pour vaincre le monde, et il est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3,8 nous dit, « Oh, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu, en remplaçant la noirceur par la lumière, en remplaçant le mensonge par la vérité, en remplaçant l'impureté par la pureté, en remplaçant la haine par l'amour, en remplaçant la guerre par la paix. » Amen. Vous n'êtes pas trop excités, on me dirait. Jésus leur parla de nouveau, « Je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et maintenant qu'il a détruit les œuvres de l'ennemi, soumettons-nous à Dieu et résistons au diable. Jean 4, 7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. »
Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas équilibrés là-dedans non plus. Ils blâment le diable pour tout. Puis je vais parler pour moi. Puis
oui, Danny, là-dedans, tu n'as rien à voir, tu es responsable de rien.
Et le plus grave malaise de notre société à l'heure actuelle, c'est que l'on déresponsabilise les individus. Il y a toujours quelqu'un d'autre à blâmer. C'est jamais ta faute à toi. Puis il faut être prudent que dans notre marche chrétienne, c'est toujours la faute du diable. Parce que celui qui tient le diable responsable de tout est en train de dire que lui, il est responsable de rien. Pas ma faute. Et qu'il est incapable, contrairement à ce que nous disent les Écritures, de lui résister. La Bible dit « résister et il fuira loin de vous ». Non, il n'est pas responsable de tous les malheurs. Mais oui, il faut s'en méfier. Soyez sobres, nous dit Pierre, restez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde autour comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Puis en passant, si le diable te rappelle de ton passé, rappelle-lui de son futur. Et Apocalypse 20:10 nous dit, « Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Finalement, Jésus-Christ est venu pour vaincre le monde, pour détruire les œuvres du diable, pour crucifier la chair. Il est venu en chair afin que son corps de chair subisse le châtiment que la chair méritait, afin que l'on soit libéré de ce corps de mort. Jésus a crucifié la chair, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et la chair, malheureusement, on blâme le monde, on blâme le diable, mais beaucoup des scandales qui ont eu lieu dans les églises, c'est la chair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu dans le monde. Il a fait son entrée sur la scène. Parce que ça, on résume ça, là. Mais pourquoi il est venu? Pour vaincre le diable? Crucifier la chair? Convaincre le péché? Afin que quiconque croit dans son œuvre ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour vaincre la chair, parce que moi aussi, je suis en chair et en os. Vous autres? Ouais. Vous me rassurez, là, j'ai eu peur pour une minute. Ce que j'ai remarqué dans mes années de vie chrétienne, c'est que le plus proche que je me tiens de ce livre, le plus loin je suis du péché, et le plus loin je me tiens de ce livre, le plus proche je suis du péché. Parce que c'est ce livre-là qui change mon intelligence. J'en ai pas beaucoup, je suis d'accord avec vous, mais bon.
C'est là que j'ai eu la change, qui contrôle mes pensées, qui contrôle mes désirs charnels. C'est ce livre. C'est les moyens qu'il nous a fournis par sa grâce. La prière, la lecture de la parole, s'assembler ensemble, louer le Seigneur, éviter trop de réseaux sociaux, les pop-up de toutes sortes, se tenir loin de ces choses-là, mais en même temps, vivre notre vie. 2 Pierre, on termine avec ce verset-là. 2 Pierre, 1 et 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, en gros sens, c'est l'amour des choses de Dieu. C'est ça que ça veut dire, la piété. Si quelqu'un est pieux, c'est qu'il aime les choses de Dieu. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurant de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science la tempérance la patience à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui, en qui ces choses ne sont point, est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. La solution, c'est de passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à apprendre à connaître Jésus-Christ. Et plus de temps qu'on apprend ou qu'on prend à connaître Jésus-Christ, moins ce monde aura de l'influence sur nous, moins l'ennemi de nos âmes auront une emprise sur nous, et moins notre chair va nous coûter cher, mais qu'on pourra la mater, non pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous donne victoire par Jésus-Christ sur ces ennemis de nos âmes qui veulent nous décourager, qui veulent nous faire abandonner, qui veulent nous faire trouver la vie chrétienne plate. Mais la vie chrétienne, elle est stimulante si on prend le temps de connaître l'infinie grandeur de Jésus-Christ et la gloire immense de son salut. Et lorsqu'on parle du salut à des plus vieux chrétiens, on nous dit « Tu nous parles des choses de base. » Non, je parle de la chose la plus importante pour l'être humain, c'est le salut en Jésus-Christ. Parce que plus que je réalise la grandeur de son salut, j'en braille. Plus que quand je suis venu au Seigneur, parce que je réalise la grandeur de son œuvre, ça n'a pas d'allure. Hey, c'est grand, Seigneur. C'est grand le salut en Jésus-Christ. C'est grand son œuvre. C'est grand sa grâce. C'est grand son amour. C'est grand sa bonté. C'est grand les liens fraternels. C'est grand les révélations qu'il fait à notre cœur. Nous, pauvres êtres de chair, il daigne nous révéler sa pensée, la pensée de l'éternité. Et en plus de tout ça, il nous prépare une place. Puis le matin, quand je marche dans la nature, puis que je vois la grandeur de cette nature, la grandeur de cet univers, puis je trouve ça beau, puis je trouve ça rusé, puis je trouve ça intelligent, je trouve ça bien fait, je me dis que tout ce site va brûler, puis que ce matin est encore plus glorieux. La plus grande des joies que j'aurais eues sur cette terre n'aura aucune comparaison avec mon statut normal dans le ciel. Je ne serai même pas en extase, ça va être mon statut normal d'être de même. Comprenez-vous, là? Puis la bataille qu'on a amenée n'a aucune comparaison à la gloire qui nous attend. Oui, nous avons des ennemis. Oui, nous avons un combat à mener. Mais je ne vous l'ai pas dit, le titre de mon message était « Mais Dieu ». Et il ne faut jamais oublier ceci, « Mais Dieu ». Mais Dieu. Il y a ce site, mais Dieu. Il y a cela, mais Dieu. Il y a ceci, mais Dieu. Ça ne file pas, mais Dieu. Mais Dieu. Mais Dieu. Mais Dieu dans ta vie, aimé-té, mais Dieu, quand ça va mal, il peut t'aider. Amen. Courbons nos têtes et prions.